Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. L'armée investit en Calédonie et nous allons en parler dans cette émission. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, les FANC ont lancé une série de travaux de construction ou de réfection, à l'image par exemple de la reconstruction du nouveau mess de l'artillerie. Nous allons en parler avec donc nos invités, le général Soubrier, le commandant supérieur des FANC, l'ingénieur en chef de première classe Dominique Lancien, le directeur d'infrastructure de la défense de Nouméa, Pascal Roman qui est directeur de la SCB et Antoine de Palmas qui est associé gérant de la société Epuro Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment commencer avec vous, mon général, pour expliquer dans quel cadre ces travaux sont entrepris. Est-ce qu'il y a un lien avec la loi de programmation militaire? Est-ce que c'est des choses qui sont anticipées depuis plusieurs années? Voilà, dans quel cadre ces travaux s'effectuent aujourd'hui?
Alors, tout d'abord, un grand merci de nous accueillir et de nous donner finalement cette opportunité de dire effectivement l'apport économique des FANC à la Nouvelle-Calédonie. C'est pas complètement intuitif parce que nous ne sommes pas une entreprise. La semaine dernière, vous avez reçu Claire Durieux de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie et vous avez parlé de relance. Bah, finalement, les FANC participent à cette relance à travers leur présence, leurs investissements et leur apport au tissu socio-économique. La présence, je rappelle, plus de 2000 personnels civils, personnels militaires actifs et réserves, et ce qui représente à peu près 4600 personnes en comptant les familles, donc un apport à l'économie calédonienne, à travers, en gros, on représente 3% du PIB calédonien. Par leurs investissements, donc vous avez évoqué la loi de programmation militaire, les prévisions d'engagement entre 2026 et 2030, c'est 27 milliards de francs pacifiques. Et leur rapport au tissu socio-économique, bien sûr, c'est l'emploi et c'est la participation au BTP. Ce qui régit ce besoin et donc cette loi de programmation militaire, c'est bien le contexte international qui aujourd'hui est dégradé, incertain, et qui crée ce cadre stratégique qui est illustré par la consolidation, la modernisation de nos capacités. On ne crée pas une nouvelle base des FANC en Nouvelle-Calédonie, c'est bien de la modernisation. Notre mission, c'est faire face aux menaces, c'est répondre à des crises climatiques et c'est d'être au service de la population. Donc nous devons répondre à des exigences opérationnelles et humaines aujourd'hui d'une armée de haut niveau. Donc l'effort de la LPM 24-30 est robuste, puisque pour les Outre-mer, je rappelle, l'effort consenti, c'est 13 milliards d'euros, 5 milliards d'euros pour le Pacifique, c'est-à-dire 600 milliards de francs pacifiques. Concrètement, la loi de programmation militaire consacre un effort humain, capacitaire et infrastructure pour les FANC. Effectifs en hausse, ce sera en gros de l'ordre de plus de 200 effectifs, donc près de 10%. En capacité, ce sont des capacités modernisées. Nous allons accueillir au mois de juin un deuxième patrouilleur outre-mer, le Jean Tranap, et nous allons renouveler notre flotte hélicoptère, qui étaient des Pumas jusqu'à maintenant, qui vont être remplacés par des Caracal, et surtout l'infrastructure qui doit être adaptée pour consolider notre capacité d'accueil. Donc c'est bien sûr, dans le cadre de cette LPM, c'est bien sûr les travaux pour accueillir davantage de capacités, mais c'est aussi, et vous l'avez cité, le MES des artifices, on pourra y revenir.
Voilà, LPM pour loi de programmation militaire, hein, pour que les choses soient bien claires. Mon général, une petite précision, vous l'avez dit, on a reçu Claire Durieux la semaine dernière, c'est 27 milliards que les FANC investissent en Calédonie, c'est de l'argent supplémentaire par rapport aux sommes débloquées par l'État dans le cadre de la gestion de l'après-émeute, hein. On est bien d'accord, c'est de l'argent supplémentaire. C'est pas compris dans l'aide que l'État va fournir directement à la Calédonie.
Non, c'est vraiment dans le cadre de cette loi de programmation militaire. Donc c'était provisionné, c'était étudié avant 2024. Et donc c'est vraiment en plus par rapport à ce plan de relance de Claire Durieux.
Alors, colonel Lancien, le général Soubrier a fixé le cadre, hein, a expliqué le cadre de ces travaux. Ils ont commencé quand? Ils vont se poursuivre jusqu'à quand? Et est-ce qu'il y a quelques chantiers qui vous semblent plus emblématiques que d'autres?
Ou alors pour peut-être situer un petit peu la direction d'infrastructure qui est ici, le ministère des Armées dispose d'un service constructeur, service infrastructure, dont dépend la DD, et les missions au-delà de construire, oui, la finalité c'est construire, c'est de conseiller en infrastructure le COMSUP, hein, c'est l'une des règles, de construire, c'est-à-dire avec une programmation qui découle de la loi de programmation militaire, c'est d'engager derrière des infrastructures d'accueil, de soutien des familles, soutien des forces, soutien des familles. Donc là, sur les projets aujourd'hui, en tout cas les gros projets qui nous impactent, on a commencé, on est dans vraiment là dans la partie dure qui va se finaliser, commencer par les travaux dès cette fin d'année de l'arrivée du Serval, donc le programme Scorpion. Sur le RIMAP, d'abord sur Plume, dans un deuxième temps sur Nanday, hein, on travaille sur les quatre sites. Va se suivre, est en cours là, sur la base aérienne dans la Tontouta. Aujourd'hui, le programme AFSIMAR qui se développe, qui verra une deuxième phase d'ici 2030. La 400M, on a parlé, qui arrive. On a aussi un programme Rafale. Donc voilà, des grosses infrastructures hein, d'accueil qui, et de modernisation qui vont beaucoup impacter en fait cette base aérienne. Sur la base navale, on a la corvette hauturière qui est attendue à compter de 2030. Au-delà de ça, ce sont les grands programmes d'investissement. Il y a les programmes plus modestes, entre guillemets, il y a le soutien. On parlait du MES. Le MES, c'était une nécessité pour soutenir les hommes. Un projet 1,8 milliard qui est en cours, qu'on va finaliser avec le mandataire SCB qui est à côté pour Croix du Sud 2027, c'est-à-dire que l'inauguration est programmée sur avril 2027. On est dessus. Un gros chantier emblématique, le chantier des FANC. Au-delà du chantier des FANC, c'était sur un engagement 24 et début 25, le chantier de la Nouvelle-Calédonie. Donc un projet phare et qui était très attendu. Et puis il y a ce qu'on investit sur le soutien, c'est-à-dire des choses qui se voient moins souvent, le soutien de l'homme, le soutien des familles. Aujourd'hui, on est à une moyenne de 1 milliard par an sur ce qu'on appelle la maintenance-entretien et qui est injecté directement auprès des entreprises.
Alors, l'ensemble de ces travaux que vous avez évoqués, leur étalement dans le temps, ça va durer combien de temps et quel est le planning qui est prévu pour cela?
Alors, aujourd'hui, on a un schéma directeur immobilier, hein, donc on travaille sur une programmation long terme. Aujourd'hui, on a une lisibilité jusqu'à 2035.
Jusqu'à 2035.
Voilà. Qui se perdura, mais d'ici 2035, il sera réactualisé d'ici là. Aujourd'hui, on a investi en moyenne 11 milliards de francs sur l'exercice 2024-2025. Et on est sur une moyenne, c'est une moyenne de 6 milliards par an d'ici 2030, stabilisé.
Voilà, pour arriver à ces 27 milliards que vous évoquiez, général Soubrier.
Donc c'est vraiment une feuille de route significative jusqu'en 2030 et qui est assez claire.
Alors ça, c'est le côté militaire. On va passer au côté civil, si vous le voulez bien, parce que pour faire ces travaux, vous avez fait appel à des entreprises de Nouvelle-Calédonie. On a avec nous donc Pascal Roman de la SCB et Antoine de Palmas de la société Epuro. Vous avez répondu les uns et les autres à des appels d'offres sur une partie des lots, j'imagine, de l'ensemble de ces travaux. On parle beaucoup de la commande publique nécessaire pour relancer le secteur du BTP dont on sait qu'il est particulièrement en souffrance aujourd'hui. Antoine de Palmas, c'est une aubaine en quelque sorte pour le BTP. Et est-ce que ça va donner du travail ou est-ce que ça va permettre à ce monde du BTP d'avoir un peu de perspective? Parce qu'on sait que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui.
Oui, donc merci de nous donner la parole aujourd'hui. Je pense qu'on parle au présent, c'est-à-dire que ça donne du travail aujourd'hui. C'est vrai qu'on est là pour témoigner de ça. Une entreprise comme Epuro, nous on est spécialisé dans le traitement de l'eau et l'assainissement, et on a deux types d'actions auprès des FANC. C'est à la fois des prestations qui sont de l'ordre de l'entretien, et donc qui sont
des prestations régulières
et entretenir le patrimoine existant, et c'est important parce que ça permet aussi de faire vivre des entreprises comme la nôtre. Et en effet, des appels d'offres qui sont sur des nouveaux projets et qu'on va appeler des travaux neufs. Et c'est l'ensemble de ça qui permet d'apporter du volume, de maintenir des emplois et de maintenir des exigences. Et en effet, ce sont à chaque fois des appels d'offres. Donc on a aussi un cadre de mise en concurrence et un cadre contractuel qui est très clair, qui existe. Et en tout cas, en 2025... On a vu un dynamisme et un nombre d'appels d'offres issus des forces armées qui étaient importants et salutaires pour le métier.
Pascal Roman, vous partagez le même constat, j'imagine?
Tout à fait. De la même manière, je vous remercie pour l'accueil et puis pour la possibilité de parole. Pour compléter ce qui vient d'être dit, depuis mai 2024, le secteur du privé
c'est éteint pour le monde du BTP. Donc on compte vraiment sur tout ce qui est commande publique et notamment les FANC pour nous donner de la visibilité. C'est surtout ça qu'on cherche à avoir, de la visibilité, de manière à pouvoir se projeter en maintenant les équipes qualifiées, capées, de manière à faire les beaux projets qui nous sont confiés, dont font partie le MES, dont on vient de parler, MES des artifices.
On en reparlera tout à l'heure.
On y reviendra dessus.
C'est un lieu emblématique, donc effectivement, il faudra qu'on y passe un peu de temps.
Et puis les messages sont passés vis-à-vis de l'exercice Croix du Sud de l'année prochaine, donc on sait qu'on se doit d'être au rendez-vous. Et en tout cas, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, voilà, cette visibilité est vraiment primordiale pour le monde du BTP, quelles que soient les tailles d'entreprise, que ce soit des grosses entreprises, des petites, enfin des dizaines d'entreprises en direct ou indirect. Vivent de ces commandes, et c'est vraiment vital pour le secteur du BTP.
Donc ça arrive évidemment à point dans le contexte économique que connaît la Nouvelle-Calédonie. Général Soubrier, les choses ont été faites évidemment dans les règles de l'art, si j'ose dire, avec des lots pour les appels d'offres. Aujourd'hui, ils ont tous trouvé preneur, tous les chantiers sont affectés.
Oui, tout à fait. Oui. L'ensemble des chantiers sont affectés. Et c'est vrai que on parle du MES qui est un objet symbolique et on l'évoquera tout à l'heure. Je voudrais simplement insister aussi sur ce fait que de nombreux corps de métiers sont concernés. Et on parle du MES, mais il y a aussi les hangars d'accueil des aéronefs qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est aussi l'armurerie à plumes. Il y a un certain nombre de lots qui sont différents, qui font appel à de nombreux corps de métiers. Et donc, je pense qu'il y a effectivement cette relation avec les entreprises et puis cette réponse à un besoin qui est notre préoccupation quotidienne. Mais je vais laisser...
Mais vous n'avez pas été, colonel Lancien, submergé par les demandes après avoir lancé les appels d'offres ?
Alors si, on a vu depuis quelque temps une augmentation des nombres d'entreprises qui répondent à nos appels d'offres. Bon, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit. C'est oui, les financements en fait sont des financements français en euros en fait à la base, et donc on est assujetti au règlement de la commande publique. Bon, ce qui est pas forcément simple. On accompagne les entreprises, notamment les plus petites entreprises, qui sont moins bien armées en fait pour répondre à ça depuis plus d'un an maintenant. À dire quand même, en bilan 25, parce que à un moment donné les chiffres peuvent être parlants, on a notifié, donc on a signé, moi j'ai contracté avec 36 entreprises mandataires titulaires sur des marchés d'importance, on appelle les opérations individualisées, donc fait partie l'armurerie à Plume, le poste de commandement à la base aérienne, donc 36 marchés d'importance entre guillemets, mais on a à cœur et on a d'avoir des commandes qui sont accessibles aux entreprises du BTP local.
Il n'y a pas de marché très spécifique ou de construction, de rénovation sur des zones sensibles qui nécessitent de la technicité particulière ?
Si, mais localement, on arrive à trouver. Non seulement local, c'est-à-dire que moi, les 36 entreprises avec qui on a contracté ne sont que des entreprises locales. On capte aussi alors un nombre de sous-traitants. On a dépassé la centaine de sous-traitants qui permet de capter ce qu'on disait des plus grosses entreprises, mais aussi de la PME, de la petite moyenne entreprise, des très petites entreprises. On est à 36 marchés. Oui, j'ai dépassé les 1200 commandes. Donc bon de commande directe à l'entreprise, donc qui permet aussi de faire vivre des petites entreprises. Voilà, on essaye de couvrir le secteur. On a aussi du bureau d'études. Voilà, c'est une offre très globale qui permet aussi de répartir en fait le plus harmonieusement possible avec les contraintes qu'on a dans le secteur du BTP.
Oui, en général.
Il y a effectivement de nombreuses compétences en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il faut le dire. On a un chantier qui n'est pas géré par l'infrastructure de défense. C'est le marché de déconstruction de nos P400, la Moqueuse et la Glorieuse. Vous avez dû apercevoir la Moqueuse.
On en a beaucoup parlé, oui.
Près de Cine City, mais le chantier se passe bien. Les deux patrouilleurs seront démantelés d'ici le mois d'août. Les compétences que nous avons trouvées ici sur le territoire correspondent exactement à ce qui était recherché par le service de soutien de la force. Il y a vraiment ce vivier de compétences ici qui nous permet finalement d'économiser aussi de l'argent, parce que ce serait revenu finalement à beaucoup plus cher de renvoyer les patrouilleurs dans l'Hexagone. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre en valeur aussi ces compétences, ces entreprises qui existent ici, qui sont en capacité de répondre à ces besoins qui sont relativement spécifiques.
Pascal Roman ou Antoine de Palma sur ces spécificités
Je rejoins complètement l'approche et la vision. Je trouve que sur le territoire, les compétences sont là. C'est pour ça qu'il ne faut pas les perdre. Et ce qui est hyper appréciable d'un point de vue entreprise, c'est qu'on a, avec les FANC, on a un cadre qui est clair. Et finalement, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, progressent dans le cadre des marchés avec cette relation client-sous-traitant. Et ça, c'est hyper appréciable. Et autre aspect qui n'est pas des moindres, c'est les règlements qui sont associés aux travaux. C'est-à-dire que quand on part avec les FANC, on sait que dans des délais réglementaires...
J'allais avoir cette question perfide, je me demandais si j'allais la poser, mais est-ce que l'armée paye dans les délais raisonnables?
Donc par les temps qui courent, c'est appréciable. Et voilà. Encore une fois, c'est vital pour nos entreprises. On peut plus se permettre d'avoir des mois, voire des années, parfois sur un chantier de trésorerie impacté par des délais de paiement qui sont pas bons. Quoi.
Antoine de Palmas.
Oui, c'est... Il y a en effet des gros chantiers emblématiques et il ne faut pas oublier l'ensemble de toutes les autres opérations qui permettent à des entreprises de toute taille de travailler, soit seules, soit en groupement. Et c'est assez vital et c'est assez réparti sur l'ensemble du territoire et des îles. Le sujet de l'exigence, c'est aussi qu'on travaille dans un cadre en effet qu'on connaît, mais on travaille dans un cadre qui est un cadre exigeant. Exigeant en termes de réglementation appliquée et du coup d'outils et d'installations. On a réalisé des installations de potabilisation à l'île des Pins, on travaille sur des sujets d'assainissement, on travaille sur des sujets de traitement de l'eau avec des métaux à enlever et on est assez souvent d'ailleurs au-delà de la réglementation calédonienne. Et c'est important pour les entreprises comme les nôtres d'avoir accès à des marchés de ce type-là, parce que c'est ce qui permet de garder nos compétences, mais aussi de les faire évoluer. Et on a la chance, en effet, de pouvoir le faire ici localement. Donc voilà, c'est vraiment des dossiers importants. Et le sujet de la planification d'avoir un peu de visibilité est majeur dans...
Justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'on a souvent parlé dans cette émission de la question de la perte de compétences lorsqu'on est obligé de réduire sa masse salariale et donc ses effectifs jusqu'à un niveau où ça devient critique. Est-ce que ces chantiers, il y a une visibilité, si on l'a bien compris, avec ce que disait le colonel Lancien, jusqu'à 2030 à peu près, même si tout n'est pas encore complètement réglé. Vous avez besoin de perspectives, vous avez besoin de préserver les emplois. Est-ce que ça va vous permettre, ces chantiers, justement dans le but des perspectives, de restabiliser votre entreprise ou d'avoir un petit peu de visibilité qui vous laisse espérer de pouvoir retrouver une activité sinon normale, au moins supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui?
La visibilité, pour ceux qui ont la chance d'avoir été attributaires de ces marchés, elle est acquise par le marché et on est dans un cadre connu et on a un client qui respecte les engagements, c'est aussi important. Mais pour l'ensemble de la profession, la visibilité et savoir qu'il y a une programmation et que des dossiers vont arriver est presque aussi important pour stabiliser les équipes et tenir et se dire il y a des choses qui arrivent. Voilà. Et ça, d'avoir des notions de date, de savoir que les appels d'offres arrivent, d'être dans un cadre aussi connu, c'est majeur et c'est important pour l'ensemble de la profession.
Pascal Roman.
Pour compléter, ça permet de se projeter et non seulement de maintenir les équipes, mais de les former en conséquence. Si on a des projets qui sont ciblés, on va être amené à profiter des petits moments de temps mort où il y a un peu moins d'activité pour former nos gens et de manière à être encore plus réactif et plus pertinent, plus compétent lorsque les marchés sortiront.
Donc il y a un besoin du côté de l'armée, parce qu'on comprend bien que ces travaux ne sont pas superflus, mais ils sont même essentiels dans le but de développement, etc. Et ça correspond aussi à un besoin du tissu économique local en Calédonie. J'imagine, Général Soupré, que vous êtes content d'entendre le discours. Tout cela, finalement, tombe au bon moment et s'organise bien.
Oui, il y a une véritable convergence. Et je pense que le territoire en a besoin aujourd'hui. Et donc, on est heureux de pouvoir contribuer à notre modeste niveau aussi, mais de pouvoir contribuer à cette relance. Voilà. Et c'est vrai que de pouvoir donner cette lisibilité, ce sont des programmes qui sont cadencés, et puis les entreprises sont payées à temps. Et je pense que c'est du gagnant-gagnant, parce que nous, ce climat de confiance, et je pourrais y revenir à la fin, mais ce climat de confiance est particulièrement important aujourd'hui. C'est la confiance qui finalement conduit et dynamise l'économie. Et puis nous, forces armées, voilà, nous avons nos enjeux aussi dans la région qui sont nombreux face aux menaces et puis par rapport aux risques naturels. Et on voit bien aujourd'hui que la météo se rappelle à nous. Et donc on a besoin d'avoir des capacités modernes, toujours plus réactives, toujours plus efficaces. Et des bâtiments pour pouvoir accueillir les nouveaux matériels qui arrivent et qui renouvellent les anciens. Donc je pense que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant.
Alors, arrêtons-nous un instant sur le mess des officiers de l'artillerie, parce qu'on le sait, c'est un lieu emblématique, on l'a dit, vous nous direz pourquoi, Général Soubrier, c'est un lieu emblématique. Mais peut-être avec vous, colonel Lancien, d'abord, est-ce que c'est de la réfection? Est-ce que c'est de la destruction, reconstruction? Est-ce que c'est un projet ambitieux? Est-ce que, voilà, à quoi va ressembler le futur mess de l'artillerie?
Alors, en fait, il est tout ça à la fois. Il y avait une nécessité. L'ancien bâtiment avait plus de 50 ans. Enfin, voilà. Et à un moment donné, entre l'effectif, ce qu'on appelle rationnaire, c'est-à-dire le nombre de couverts qu'on est capable à l'instant T de mettre en place, et puis des installations avec des matériels intérieurs, matériels qui évoluent, mais les murs n'évoluent pas. Et puis la dégradation même du bâtiment, la nécessité de reconstruire, de toute façon, était avérée. Le projet ambitieux, je laisserai Pascal en parler. Oui, le projet est ambitieux. Il a fait l'objet d'un concours.
Un concours d'architecture
où le groupement actuel a remporté haut la main en fait ce marché ambitieux parce que il y a une histoire. Il fallait conserver cette histoire, hein. Ça fait partie de notre patrimoine, mais il y a des choses qui doivent perdurer. Ambitieux parce qu'il fallait qu'il s'intègre dans le site, donc face à la baie, dans une enceinte militaire. Voilà. Et puis ambitieux pour les entreprises parce qu'il fallait qu'ils répondent à une lisibilité militaire. Alors c'est quoi? C'est comme une caserne, les casernes chez nous. À un moment donné, il y a une place d'armes, il y a un drapeau. Enfin voilà. Et donc on doit, lorsqu'on arrive dans un mess, retrouver les éléments qui font que c'est un mess et pas un autre bâtiment. Voilà. Donc là, on attend beaucoup parce que pour l'instant, ce mess, voilà, il a été esquissé. On a une maquette 3D. Enfin voilà, on sait où on va. Mais on sera content de valider que ce que l'on a, ce qui a été présenté au concours, soit la réalité sur le terrain.
Quand vous avez découvert le projet, parce que vraiment, si j'ai bien compris, la SCB va travailler sur le mess, vous avez été surpris. Vous pouvez nous en dire un peu plus ou pas trop?
Oui, bien sûr, je peux en dire un peu plus. Alors, surpris non, parce que, alors, sans rentrer vraiment dans le détail technique, c'est la particularité de ce projet qui n'est pas courant, c'est que c'est une conception-réalisation. Donc, conception-réalisation, ça veut dire que concrètement, dès la phase conception, amont, on travaille avec l'architecte qui est AEN, Sopreneur Maîtrise d'œuvre et BRH pour la partie structure. On travaille main dans la main.
Donc c'est un projet clé en main en quelque sorte.
Clé en main et qui a été en fait partagé avec les futures entreprises, alors notamment Dumes, OGA, Arbe, Socometra pour la partie technique.
Merci pour la concurrence. Non mais c'est bien.
nous sommes nombreux sur le projet et en fait l'important c'est d'avoir les entreprises, notamment grosses œuvres et techniques, sur le projet dès le démarrage. Parce que ça permet d'échanger avec les bureaux d'études et maîtrises d'œuvres et souvent de prendre des bonnes décisions, en tout cas des décisions qui sont partagées. Et d'autant plus que ce projet, au-delà de la conception-réalisation, il va se poursuivre aussi dans le cadre d'une maintenance de 3 à 5 ans. Donc c'est un projet qui est quand même atypique, qui est intéressant pour nous, pour nos entreprises, mais du coup qui ne s'improvise pas et qui finalement s'inscrit dans une durée. Concrètement, une conception dure, on va dire, un an et demi. On a attendu on a un top départ après l'exercice Croix du Sud 2025 et on doit le livrer 2027, ce qui veut dire qu'on n'a que 2 ans pour faire une démolition, des amiantages et une reconstruction. C'est très peu. C'est tout l'enjeu au-delà de l'aspect qualitatif et c'est tout l'enjeu de ce dossier-là, c'est d'arriver à livrer le projet pour avril 2027. Et derrière ça, il y aura quand même la maintenance qui sera assurée par Socometra et qui se doit d'être bonne et bien suivie. Quoi.
Ça, c'est un point important. Je m'arrête un instant sur la question de la maintenance. Vous l'avez évoqué il y a un instant, Antoine de Palmas, parce que là, ça donne aussi des perspectives dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement sur le chantier, mais on sait que derrière, il va y avoir des choses qui vont continuer dans le temps. Et ça, c'est évidemment une bonne nouvelle.
Oui, exactement. Je pense qu'il y a une attention particulière au maintien de l'état du patrimoine. Je pense que des hommes et des femmes y vivent et y travaillent. Nous, on le sent bien, ce niveau d'exigence, on le sent bien. Je regarde le colonel Lancien, dont les équipes ne manquent pas de nous rappeler nos exigences. Mais voilà, c'est important. Et puis, enfin, moi, je tiens aussi à rendre hommage aux salariés d'entreprise qui travaillent sur ces dossiers. Il y a à la fois le maintien des compétences, à la fois l'activité, mais il y a aussi une certaine fierté de travailler dans des installations importantes et de participer aussi au développement. Et je pense que dans une Calédonie qui se reconstruit, travailler sur des sujets où on voit que des choses se développent et avec du sens et avec un niveau d'exigence élevé, nous, c'est un cadre dans lequel évidemment les entreprises peuvent s'épanouir. Mmh. Et on a besoin de cadres comme ça en ce moment.
Général Soubry, un petit mot quand même sur le MES. On a dit que c'était un endroit symbolique. Pourquoi c'est un endroit symbolique ?
Alors, tout d'abord, je voudrais juste confirmer que les équipes travaillent d'arrache-pied. J'habite juste au-dessus et je peux confirmer que ça ne...
Il y a du bruit toute la nuit.
Ça ne chôme pas. Ça ne chôme pas. Et c'est vrai qu'on a évoqué l'exercice Croix du Sud 2025. Donc, les travaux de destruction ont débuté juste après l'exercice Croix du Sud 2025 avec l'accueil de 18 nations et qui ont pu se restaurer, être logées dans ce MES des artifices.
Donc, il y a aussi une question d'image.
Et donc, voilà, il y a une question d'image. Et puis, je tiens quand même à saluer le délai est quand même assez court, puisque le futur MES des artifices sera debout et livré avant Croix du Sud 2027 pour accueillir à nouveau ces 18, peut-être plus, nations. Non. Donc, il y a une question d'image, mais en tout cas, c'est un vrai symbole. L'ancien MES a été construit en 1974, donc il était vétuste, mais surtout, c'est un MES qui était symbolique parce que nombre de contingents d'appelés sont venus se restaurer dans ce MES des artifices. Et régulièrement, quand on discute avec des anciens, ils ont un souvenir ému, généralement, de leur repas, qui prenait parfois peut-être un peu rapidement, mais dans ce MES des artifices, ancienne version. Et donc, de reconstruire ce MES sur le même lieu de cette époque de la conscription, qui est maintenant pour une armée professionnelle, mais c'est une armée aussi qui va être enrichie du service national, parce que ça va arriver finalement en même temps que le service national. Donc on va avoir, je me suis déjà exprimé sur le sujet, mais on va avoir notre premier contingent service national à compter de février 2027. Donc ça va avoir du sens, même si on a des volontaires découverts de l'armée de terre qui vont commencer dès cette année. Et puis on voudrait faire justement de ce MES un lieu un peu mémoriel, et c'est pour ça on a parlé un peu de village. Le MES, c'est effectivement un village, c'est déjà une église au milieu du village, mais au sein de ce MES, notamment dans le hall d'entrée, je souhaiterais, et c'était une idée de mon prédécesseur, du général Latil, à qui je rends hommage, c'était cette idée de mettre en valeur des militaires calédoniens qui ont fait la Calédonie. Et donc nous allons avoir, nous ne savons pas encore exactement combien, mais une dizaine de portraits de militaires calédoniens qui seront peints dans ce hall. Et je pense que c'est la première chose que tout visiteur verra, ou tout appelé du service national, ou tout engagé des forces armées en Nouvelle-Calédonie, ou tout visiteur extérieur, verra en rentrant dans ce MES, donc un aspect symbolique et mémoriel qui sera important.
Un lieu symbolique avec un délai de construction contraint. On voit des gouttes de sueur perler sur le front de Pascal Roman. Non, ça va, tout est sous contrôle, Pascal Roman. Les choses se déroulent normalement. Le calendrier est tenu.
À l'instant T, oui, effectivement, les gens, malgré la pluie, travaillent quotidiennement. Après, on est un groupement d'entreprises qui sommes capés pour répondre à différents aléas. Donc, à l'instant T, le planning est suivi, le planning gros œuvre est suivi, et on est bien dimensionné pour pouvoir répondre à tout type d'aléas pour tenir l'objectif de livraison. Voilà.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans ces Jeudis de l'économie pour nous parler de ces investissements de l'armée sur les années qui viennent, jusqu'en 2030, hein, si on a bien compris, le programme va se développer sur plusieurs années. Avant de conclure, mon général, vous souhaitiez ajouter une petite chose ?
Simplement, d'abord, vous remercier encore de cette opportunité qui nous est faite. Simplement, je voulais rajouter, donc on a parlé de relance et de confiance, et juste dire que les FANC ont travaillé aussi à ces investissements qui peuvent paraître un peu immatériels par rapport au projet infra qu'on vient de citer, mais pour tisser des liens et construire cette confiance dont on a besoin, à travers notamment les actions vers la jeunesse. On a parlé service national tout à l'heure, mais il y a aussi les classes défense, etc. Ce sont aussi ces chantiers fédérateurs, les tournées en province. On fait beaucoup de choses avec les jeunes en tribu. Chaque semaine, il y a une trentaine de militaires qui sont en tribu et qui travaillent avec les jeunes. Et enfin, ce sont les projets mémoriels. On a parlé du MES et de ce hall d'entrée du MES, mais il y a aussi les 80 ans du retour des volontaires et du bataillon du Pacifique que nous allons célébrer cette année. Et c'est une belle occasion de rassembler autour de ces moments mémoriels. En ce moment, nous avons le 15 du Pacifique, notre sélection nationale de rugby militaire qui est présente. Et je pense que ce sont des belles occasions, justement, de rassembler. Voilà. Et enfin, pour poursuivre cette discussion, je donne tout de suite rendez-vous aux entreprises les 26 et 27 mars prochains à la base navale pour une séquence d'informations sur la programmation des opérations conjointes. Donc il y aura bien sûr le colonel Lancien, mais il y aura aussi le représentant du service de soutien de la flotte que j'ai évoqué tout à l'heure pour le programme de déconstruction des deux P400. Il y aura aussi tout ce qui est informatique et tout ce qui est commissariat qui seront présents pour poursuivre la discussion avec les entreprises.
Voilà, message passé et invitation lancée. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission.